Bienvenue sur le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F des Hauts-de-France. Le C2 Podcast qui vous permet de passer un moment en compagnie d'un expert ou bien d'acteurs du terrain pour partager avec eux leur vision, leurs pratiques professionnelles ou encore leurs projets. Son principal objectif consiste à rapprocher les acteurs du monde de l'orientation, de la formation et de l'emploi.
Bienvenue dans le C2 Podcast, le podcast du C2RP Carifor-F Hauts-de-France. Aujourd'hui, nous vous proposons un nouvel épisode pour lequel le titre n'est peut-être pas encore définitif. On peut avoir des hésitations. On a comme ça quelques pistes, quelques hypothèses. Innover, perdurer. Ou alors une petite histoire de l'innovation. Ou alors l'innovation en continu, si ce n'est perpétuel. Et pour parler de tout cela, eh bien, j'ai le plaisir de recevoir au microphone Noé Cazan. Bonjour Noé.
Bonjour.
Noé, nous avons déjà eu la chance d'enregistrer ensemble.
Exactement, oui.
Et c'est un plaisir de le faire à nouveau pour parler justement d'innovation, puisque cela appartient, pour ainsi dire, à l'ADN de Diagoriente. Eh bien, je vais vous inviter à compléter la présentation que j'ai pu initier.
Alors, bonjour à tous. Donc, Diagoriente, c'est une start-up d'État qui a commencé en 2018. À la base, moi, je viens de ID6, donc qui est une association qui fait des serious games et des produits numériques pour l'insertion et la pédagogie. Et donc, on a été repéré par le ministère du Travail dans le cadre d'un PIC pour répondre à des besoins usagers. On était incubé par la DINUM, la direction interministérielle dédiée au numérique.
Merci de préciser, hein, parce qu'il y a eu PIC avant. et on peut comme ça avoir pas mal de petits acronymes.
Et donc, la direction interministérielle dédiée au numérique a donc ce cadre qui s'appelle Betagouv, qui est pour les startups d'État. Et l'idée des startups d'État, donc, c'est de créer des services publics numériques gratuits, donc à destination de tous les Français, avec trois composants majeurs pour créer ces services. Donc, c'est toujours les usagers avant l'administratif, toujours la finalité avant les moyens. Et enfin, c'est d'avoir une amélioration en continu du service. Et donc, Diagoriente, cette start-up d'État, qu'est-ce que c'est? L'idée, c'est de permettre à tout le monde de faire un bilan de ses compétences techniques ou transversales et d'avoir aussi des pistes d'orientation, pouvoir trouver des opportunités géolocalisées, que ce soit des immersions, du service civique, du bénévolat, etc.
Et est-ce qu'on peut déjà avoir un indice, mais juste un indice sur ce qui fait de Diagoriente une structure innovante?
Alors, c'est déjà par les équipes. Donc, on a des équipes qui sont mixtes, donc avec des sociologues, des ingénieurs pédagogiques, des développeurs, des chercheurs en psychologie, tout un panel qui représente différentes sphères du métier pour répondre à ce besoin qu'a engendré Diagoriente. Et c'est aussi par la méthodologie, donc une amélioration en continu. Cette amélioration, elle vient surtout des retours terrain.
Eh bien, on va prendre justement dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'on va revenir sur les équipes, c'est-à-dire les effectifs qui constituent Diagoriente. On peut revenir sur justement les fonctions qui sont les leurs et aussi voir, le cas échéant, s'il y a des relations entre les effectifs en propre de Diagoriente, mais aussi un réseau de partenaires qui se trouveraient ici sur le territoire.
À la base, donc, dans cette équipe de Diagoriente, pour commencer le projet, on était quatre. Donc, deux ingénieurs pédagogiques, un directeur et une sociologue, ce qui nous a permis de faire des études de terrain. On y reviendra peut-être plus tard. Et aujourd'hui, on est à peu près une trentaine avec différents champs. Toujours ce champ de psychologie, sociologie et ingénieurs pédagogiques qui travaillent en commun, mais qui travaillent aussi avec les développeurs pour créer cette passerelle entre les idées et ce qu'on va donner aux usagers. Et après, il y a toute une équipe de communication, etc., qui gravite autour. Mais c'est aussi un système de partenaires. Donc, au début, on était surtout auprès des missions locales, etc. Et au fur et à mesure des années, on est rentré en partenariat avec Pôle emploi, l'ONICEP, enfin, des gros acteurs de l'insertion et de l'orientation en France, et plein d'autres aussi, d'ailleurs, qui nous ont permis aussi d'avancer dans ce processus d'innovation et de co-créer des produits et des services ensemble.
On le voit, on a un écosystème, ça a été le premier point d'ailleurs que vous avez développé, celui des équipes. Le second point, pour en venir maintenant à l'essentiel même, c'est la méthode. Comment est-ce que l'on peut décrire cette méthode qui permet de faire naître ou de favoriser l'innovation?
Alors déjà, c'est d'aller directement tester sur le terrain et de prendre aussi les besoins utilisateurs. Donc, comme je le disais, en 2018, on a commencé par faire des enquêtes de terrain auprès de 300 jeunes en mission locale. Et on leur a tous posé les mêmes questions sur ce dont ils avaient besoin pour leur insertion, ce dont ils manquaient, quelles étaient leurs idées pour se projeter dans l'avenir, etc. Et à partir de là, on s'est dit, bon, quelle est la solution papier-crayon qu'on peut faire pour les aider sans avoir besoin de développer quoi que ce soit, pour aller directement tester sur le terrain cette solution. Après ces 300 entretiens, on a fait à peu près pour 30 jeunes directement un peu le parcours qu'on allait développer après sur l'application. Et on les a emmenés jusqu'au bout du parcours, donc de leur création de carte de compétences jusqu'à l'insertion à la fin. Et après, on a commencé à développer des bouts de ce parcours pour voir si ça marchait, si ça marchait pas. Et on allait directement tester auprès du public dans les missions locales plutôt que de tester à distance chez soi et à demander à des formateurs de le faire.
Je me fais un peu l'avocat du diable.
Oui.
Est-ce qu'on est déjà dans l'innovation alors que l'on évoque des enquêtes, ce qui semble être un instrument déjà courant, et du test sur utilisateur, ça me semble aussi du test courant. Je l'ai bien précisé, ouais. Je me fais l'avocat du diable.
Ça marche. Je dirais que non. Généralement, quand, par exemple, quand on répond à des appels à projets ou des choses comme ça, on est dans ce qu'on appelle un cycle en V, un mode de projet en V, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément... On a les besoins utilisateurs en tête à un instant T, et on va faire tout le projet avec ces besoins utilisateurs et arriver au résultat final sans consulter au fur et à mesure les utilisateurs pour voir si le projet a dérivé, si on répond toujours bien aux questions des utilisateurs ou non. Là, on est dans une méthode agile où on va développer quelque chose, on va retourner et redemander si ça marche, si ça correspond bien à leurs besoins ou s'ils ont des nouveaux besoins qui sont plus importants maintenant que ce qu'ils nous avaient dit au début.
On a donc là la première phase d'un projet, ou en tout cas de votre démarche, celle qui a consisté à aller rencontrer des publics, échanger avec eux, récolter des informations, les analyser. La phase d'après, c'est quoi ?
Alors, c'est toujours la même chose, plus ou moins, que ça soit par différents moyens. Donc, c'est toujours de recueillir les besoins usagers et de voir qu'on a bien un impact sur les usagers. Donc, ça passe par différentes façons. Soit, nous, on a des formateurs aujourd'hui qui vont former des gens et ces personnes sont directement sur le terrain et nous font les remontées des besoins. Donc, ça soit, par exemple, des changements de police, donc qui est plus d'un point de vue technologique, mais aussi d'un point de vue pédagogique, donc comment on apprend à prendre conscience de ses compétences, par exemple. Donc, c'est ces deux façons-là. Et sinon, c'est aussi au travers de nous, on a des remontées de données directement sur l'application où on voit comment les usagers se servent de notre application. Est-ce qu'ils vont au bout du parcours ? Est-ce qu'ils arrivent bien à entrer les données qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils arrivent bien à modifier ce qu'ils souhaitent ? Et donc, c'est en analysant les parcours qu'on peut aussi avoir et vouloir modifier son application pour réussir à avoir de l'impact sur chacun. Et il y a le troisième point qui est aussi l'impact sur les usagers, comme je disais. On va aller poser des questions, faire des questionnaires auprès des usagers pour savoir si on répond à leurs besoins. Par exemple, on avait l'idée de créer un questionnaire qui soit simple et efficace, que tous les usagers puissent le répondre. Et on s'était dit au début de faire des échelles de Likert, donc des échelles de 1 à 8. Et on avait testé, on s'était rendu compte que personne ne le remplissait. Et donc, on a décidé de mettre en place un questionnaire où, au lieu de ces réponses avec des chiffres, les utilisateurs allaient sélectionner des emojis qui représentaient leurs sentiments à l'instant T sur cette application. Et donc, on s'est rendu compte qu'on avait eu beaucoup de réponses sur ces questions, 10 000 réponses. Et ça nous a permis de voir, par exemple, que les utilisateurs qui prenaient part à la démarche, ils avaient plus de confiance en eux pour présenter leurs compétences, qu'ils avaient aussi plus de pistes métiers en avant qu'ils n'avaient pas imaginé et qu'ils pouvaient s'insérer dans celle-ci. D'une part, pour avoir la mesure d'impact, mais aussi, il faut innover pour recueillir les données et permettre à tout le monde d'utiliser le service. Par exemple, on sait qu'on a testé plein de fois, on mettait du gros texte dans l'application et on s'est rendu compte que juste en mettant une image à la place du texte, les gens comprenaient mieux et ils allaient plus cliquer dessus, plus comprendre et pouvoir poursuivre le parcours plus facilement.
Et ce genre d'évolution, vous les avez observés par des comportements parce que des données sont générées ou tout simplement via des témoignages ou les deux ?
Les deux. Par exemple, donc là, on est à la version 10 de Diagorient et on est passé l'année dernière de la version qui était plus pour un public jeune à un public global, donc adulte aussi. Donc, on avait fait des tests sur la version jeune et on avait demandé aux personnes si le design leur correspondait. Est-ce que les mots leur correspondaient ? Donc, ils nous ont dit... vous utilisez le tutoiement, nous on préférait le vouvoiement. Donc des choses qui peuvent choquer ou déranger les personnes quand ils utilisent. Au début, on avait par exemple un jeu introductif pour permettre aux jeunes de prendre conscience de comment ça marche une compétence. Et les utilisateurs plutôt adultes, ils nous ont dit « Ah non, le jeu, c'est pas trop pour moi. Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire autrement pour expliquer ?» Donc, on a fait autrement. Pareil, on a un système de centre d'intérêt qui était basé sur des images. Et on s'est dit « Bon, on va reprendre un peu toutes les données scientifiques qu'on a aujourd'hui pour construire un modèle un peu plus complexe, pas difficile, mais qui permette plus de possibilités, que les gens prennent plus de temps là-dedans pour bien réfléchir à ce qui les intéresse pour pouvoir se projeter. » Donc voilà, c'est aussi bien dans la philosophie, les courants théoriques qu'on essaye d'innover, mais aussi dans la co-construction du design du site ou les fonctionnalités.
Ce qu'on vient d'entendre, c'est en fait un projet donc innovant, mais qui a évolué par petites touches, par petits ajustements. Est-ce que innover, c'est pas aussi ne pas systématiquement innover, mais c'est aussi juste s'adapter en se réinventant?
Exactement. Donc, pour nous, l'innovation, c'est une somme de petites étapes, de petites modifications qui permettent de modifier entièrement le processus pour répondre, par exemple, à des besoins d'un autre public. Ça peut être aussi, dans certains cas, une modification globale du service. À la base, nous, on crée, par exemple, une carte de compétences. Et donc, on a eu, au bout d'un moment, Pôle emploi qui s'est inséré dans le projet au travers du ROM 4.0. Le ROM, c'est le répertoire opérationnel des métiers et des emplois. Et donc, le 4.0, en fait, c'est le nouveau ROM qui permet d'avoir un répertoire qui est un peu plus mouvant, qui s'adapte en fonction des années et puis des nouveaux métiers. Et donc, qui est déjà innovant, qui est pour le service public. Et nous, on s'est dit, bon, comment on peut l'utiliser pour aider les usagers à, par exemple, créer un CV? Et donc, on s'est dit, bon, on va faire en sorte que quand les utilisateurs choisissent leur activité dans leurs expériences professionnelles, on va mettre directement en correspondance avec les compétences. Donc, on a utilisé quelque chose qui était encore pas tout à fait fini, instable et qui est amené à évoluer. Et on l'a pris pour répondre à des besoins usagers, parce qu'avant tout aussi, l'innovation, c'est de répondre à des besoins et de faire des petits pas ou des grands pour répondre à ceci, à ces besoins.
En fait, innover, c'est un travail qui consiste à utiliser une somme d'outils, identifier des besoins et, le cas échéant, je vais le dire avec quelques guillemets, mais détourner quelque peu l'outil de sa vocation principale et qu'il puisse aller remplir certains objectifs.
Exactement. Par exemple, si on s'était rendu compte au tout début ou au bout d'un an que ce qu'on avait créé n'était pas forcément utile, on aurait peut-être cherché à savoir dans notre solution quel est le point le plus utile aux usagers. On aurait pris nos routes totalement différentes. Mais on serait arrivé quand même à quelque chose qui sert l'usager. Et donc là, nous, on a eu de la chance, ça marchait. Mais des fois, les trajectoires d'innovation peuvent dériver en fonction des besoins usagers. Et c'est pas grave, on prend un autre chemin pour arriver à répondre à un besoin.
Cela sous-entend, dans l'absolu, qu'il s'agit aussi d'avoir une veille relativement constante.
C'est ça, une veille sur les tendances en termes de politique publique, une veille sur les besoins usagers, qu'est-ce qu'ils ont besoin à l'instant T, est-ce qu'ils ont besoin d'informations métiers ou qu'on les aide à créer leur CV, ou de recherche d'opportunités, qu'ils trouvent facilement de l'emploi, etc. Et c'est toujours au travers de cette veille et de cette enquête terrain qu'on crée de nouvelles fonctionnalités qui viennent s'additionner à la somme de ce qu'on a déjà fait.
La veille m'invite à revenir sur une notion que l'on a sensiblement déjà évoquée, c'est celle des indicateurs. Parce que ajuster ou identifier à la faveur de la veille, mais aussi de l'expérience, donc des évolutions potentielles du projet, c'est à nouveau rentrer dans une mesure d'efficacité, dans des mesures d'impact. Et comment est-ce que cela se caractérise? Qu'est-ce que l'on mesure? Qu'est-ce que l'on obtient? Qu'est-ce qu'on prend plutôt en considération qu'autre chose?
Alors, il y a deux types de mesures. La mesure de l'utilisation de la solution. Donc ça, on utilise une matrice qui s'appelle la matrice pirate, parce que l'acronyme, c'est ARI, comme ça. Voilà. Donc le A, ça veut dire acquisition. Donc, ça veut dire quand est-ce que votre utilisateur arrive sur la plateforme. Donc ça nous permet de savoir, par exemple, si au travers des réseaux sociaux ou des formateurs, combien d'utilisateurs vont arriver sur la plateforme. Donc, il y a l'acquisition. Après, il y a l'activation. Ça veut dire que votre utilisateur va s'inscrire sur votre plateforme, si vous avez un système d'inscription ou quelque chose comme ça. Donc, on essaye de convertir le taux d'activation en fonction du taux d'acquisition. On essaye que ça soit à 100%. Quand il arrive sur la plateforme, on veut qu'il s'inscrive. Et ensuite, il y a la partie qui est un peu plus dure, qui est la rétention. On veut que l'utilisateur reste sur la plateforme, qu'il arrive au bout du parcours, qu'il fasse tout ce que vous voulez. Et donc, ces différents points arrivent ensuite à l'impact, c'est-à-dire on fournit un impact à l'utilisateur. Alors, par exemple, dans Diagorient, l'acquisition, c'est l'utilisateur va arriver sur la plateforme, l'activation, il va s'inscrire, et la rétention, c'est qu'il va faire le parcours. Il va créer un CV de compétences, il va chercher des pistes métiers, il va trouver des pistes d'opportunités. Et puis l'impact, c'est quelque chose, nous, qu'on a défini comme un impact plutôt intouchable ou intangible qui est sur la confiance en soi de l'utilisateur, sa capacité à se présenter avec un CV de compétences ou sa capacité à trouver des pistes d'orientation qu'il n'avait pas trouvées à la base. Il y a cette matrice qui nous permet, par exemple, de savoir, bon, en 2021, on a vu que tous les utilisateurs n'utilisaient pas trop la partie s'orienter ou trouver des opportunités. Donc, on s'est demandé comment on pouvait modifier cette partie pour permettre à chacun et à nous aussi de maximiser cette partie rétention de l'utilisateur dans le parcours. Donc voilà, il y a cette première brique. Et comme je le disais, il y a la deuxième brique qui est plus impact, aussi bien sur les utilisateurs, mais aussi sur tout l'écosystème qui est autour. Ça peut être nous, on travaille avec des formateurs, donc on essaye de savoir comment notre solution, elle permet de changer leurs pratiques, comment elle change leur accompagnement dans les projets professionnels, comment ça les change d'un point de vue théorique. Donc nous, vu qu'on utilise les compétences transversales ou techniques, on essaye de pousser vers l'approche inductive par les compétences. Et il y a aussi l'impact sur nos partenaires. Donc, par exemple, avec Pôle emploi, comment nous, on aide à fluidifier ou à leur faire un gain de temps. Donc, on a mesuré ça au travers d'enquêtes. On s'est rendu compte que nous, on faisait gagner 2 heures par formateur sur la construction de projets professionnels, création de CV, etc. Donc, c'est par ces mesures qu'on arrive à avoir un impact aussi bien sur comment on utilise notre solution et on essaye toujours de maximiser ce point et un impact plus intangible sur les personnes, les partenaires et les personnes gravitant autour de nos utilisateurs finaux au travers de questionnaires, d'entrevues, d'entretiens, etc.
On comprend avec cette description l'importance des données dans la vie d'un projet, bien sûr, et dans le maintien d'une innovation qui se voudrait une amélioration un peu constante.
Exactement. Alors, c'est un métier qui vient de plus en plus. Il y a des data analysts qui permettent de faire ce travail, mais il y a aussi des solutions gratuites, pas forcément dans les GAFAM, qui permettent aussi de suivre et de tracer tous ces petits points sur votre site et des solutions qui vous permettent de faire des questionnaires faciles. Ça coûte pas grand-chose et ça vous permettra toujours de réajuster votre solution en fonction des besoins et des retours terrain.
On arrive presque au terme du podcast, donc chronologiquement, on s'approche de la fin. On va s'intéresser à la chronologie du projet Diagorient, c'est-à-dire quelle est la dernière innovation, et puis pourquoi pas, quelle serait la prochaine, sans trop spoiler, pour parler le langage des jeunes.
Alors, je peux spoiler. Donc là, on est en train de travailler, peut-être quand le podcast sortira, ça sera peut-être sorti, je ne sais pas. On est en train de travailler sur un outil qui permet de s'orienter en fonction des compétences. Donc, comme je parlais tout à l'heure du ROM 4.0, cette base de données nous permet d'avoir toutes les compétences de tous les métiers. Et l'idée, c'est de permettre à chacun déjà de valoriser ses compétences et de voir, selon la compétence qu'il souhaite, quel métier pourrait l'intéresser. Donc, de voir la transversabilité des compétences au travers de tous les métiers avec des systèmes de pondération. Donc, on pourrait dire, par exemple, moi, j'aime bien faire des tableaux Excel de la donnée. Et ben, c'est la compétence que je mettrai en avant pour trouver d'autres métiers autour de cette compétence. Et ce qui permet après de faire des ponts en fonction aussi de voir les pas qui nous manquent, les compétences qui nous manquent pour choisir un métier. Par exemple, quelle formation il me manque pour acquérir telle compétence, pour avoir accès à un tel métier.
On aura eu l'information avant tout le monde.
C'est ça.
Eh bien, cette fois-ci, on arrive bel et bien au terme de cet épisode. Un grand merci, Noé, d'être venu.
Merci à vous.
Pour évoquer à nouveau ces projets effectivement innovant.
Merci.
Et un grand merci également à nos auditeurs. Vous retrouverez ce podcast comme tous les autres, aussi bien sur l'ensemble des plateformes de podcast, sur le site du C2RP et sur les réseaux sociaux. À très bientôt.
Merci.
Merci de votre écoute. Si vous avez apprécié cet épisode du C2 Podcast, n'hésitez pas à le partager avec vos collègues ou avec toute personne pour laquelle il sera intéressant et utile. Laissez-nous librement un commentaire, posez-nous vos questions sur le sujet traité par le podcast ou encore faites-nous part de vos idées pour un prochain C2 Podcast. Et pour ne rien manquer de notre programmation, abonnez-vous au C2 Podcast sur vos plateformes préférées, Apple Podcasts, Deezer, Spotify. Vous ne manquerez aucun épisode.